Le Grand Dialogue.
Sigika Foba.
Edouani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halud Mouni.
Chenne Berry. Sigika Foba.
Le Grand Dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce débat, dans ce grand dialogue spécial présidentiel du 29 juillet prochain au Mali. Nous recevons ce soir l'un des 24 candidats. Il s'agit de M. Choguel Kokala Maïga. Avec lui, nous parlerons entre autres de sa candidature, de son projet de société, de la situation sécuritaire dans le nord et le centre du Mali, de l'accord de paix, mais bien évidemment de la lutte contre la corruption. Et pour mener ce débat, Mamadou Touré, moi-même Colsien Garçon.
Le Grand Dialogue.
Monsieur Choguel Maïga, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir.
C'est une question que nous posons à tous les candidats. Nous sommes à quelques 19 jours du premier tour de la présidentielle. Quel est votre état d'esprit à l'heure qu'il est?
Je suis déterminé à aller aux élections, à parler aux Maliens, à me faire comprendre et gagner les élections le 29 juillet 2018.
Quelles sont les principales motivations qui vous ont poussé à être candidat?
Mes principales motivations sont de plusieurs ordres. La première, c'est que je n'accepte pas la situation d'humiliation dans laquelle notre peuple s'est trouvé à partir de 2012. Je n'accepte pas la situation d'État failli, sous tutelle, dans laquelle se trouve le Mali en 2012 et aujourd'hui encore dans la situation d'un État qui n'a pas son destin en main et qui est quasiment sous tutelle de la communauté internationale. Je ne veux pas accepter cette situation, donc je me présente pour proposer des solutions de sortie de la situation que je viens de décrire.
N'avez-vous pas votre part de responsabilité dans cette situation, puisque vous avez été ministre?
J'ai expliqué plusieurs fois aux uns et aux autres que les discours tendant à dire que vous étiez dans le gouvernement, donc vous êtes responsable de ce qui s'est passé, sont tenus essentiellement par beaucoup de gens qui ne comprennent pas comment le gouvernement fonctionne. Vous savez, quand vous venez dans un gouvernement, après le décret qui vous nomme, il y a un deuxième décret qu'on vous donne qui s'appelle le décret qui détermine les attributions spécifiques des ministres. On vous dit le périmètre d'action dans lequel vous devez agir. Vous ne pouvez pas sortir de ce périmètre-là s'il ne vous est pas demandé. Et donc, celui qui assure la coordination de l'action gouvernementale, c'est le Premier ministre. Il y a même des domaines qui relèvent de votre périmètre. Si vous voulez les traiter, s'il n'est pas d'accord, vous ne les traitez pas. Et donc la situation dans laquelle notre pays se trouve, c'est une question qui est essentiellement liée à la faillite de l'armée, à la faillite de la politique de défense de l'État. Or, vous savez que l'armée, le président de la République est le chef suprême des armées. Vous ne verrez jamais dans un conseil des ministres, en tout cas moi je n'en ai jamais vu, qu'on discute des questions de défense en conseil des ministres. Ça ne se fait nulle part, je ne crois pas d'ailleurs que ça se fait dans un autre pays. Donc ce qui arrive à l'armée, moi je ne suis pas responsable. Je ne peux pas répondre de ça. Je réponds des secteurs qui m'ont été confiés.
Donc vous estimez que vous avez accepté de faire partie d'un gouvernement en sachant que vous n'allez pas être libre?
Non, ce n'est pas être libre. Je viens de vous expliquer. Quand vous rentrez dans un gouvernement, vous ne vous occupez pas du tout.
Mais vous dites que même les secteurs dont vous vous occupez, oui, des fois vous n'êtes pas libre.
Mais quand vous prenez des initiatives, vous savez, quand vous venez dans un gouvernement, je vous donne mon cas. Quand j'ai été dans le gouvernement par deux fois, j'ai trois points sur lesquels je m'appuie pour travailler. Le premier, je prends le programme du candidat qui a été élu. Je regarde dans son programme quelle est la partie qui relève de mes compétences. Un. Deuxièmement, je regarde les dossiers qui incarnent la continuité de l'État, c'est-à-dire des dossiers qui ont été traités par le gouvernement antérieur, mais qu'il faut continuer parce que l'État, c'est une continuité. Et trois, des initiatives personnelles que je peux prendre. C'est ça ma conception du travail gouvernemental. Et donc, dans chacun de ces secteurs, si vous prenez le programme du président élu, vous choisissez un secteur, vous voulez travailler là-dessus. Je vous donne l'exemple des ordinateurs que le président Keta a promis aux étudiants, en disant que s'il est élu, chaque étudiant aurait un ordinateur. J'ai voulu traduire cette promesse en action concrète. J'ai monté un programme de 200 000 ordinateurs, parce qu'au moment où j'arrivais dans le gouvernement, il y avait environ 120-130 000 étudiants. Le ministre de l'Éducation m'a indiqué qu'à l'horizon 2018, nous aurons environ 180 000 étudiants. J'ai monté donc un projet de 200 000 ordinateurs. Pendant 6 mois, nous avons travaillé en tant que techniciens. Nous avons identifié le financement. On a lancé l'appel d'offres pour les achats des ordinateurs. À 2 semaines, le Premier ministre m'a fait une lettre. Il dit d'arrêter. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne vais pas démissionner du gouvernement parce que le Premier ministre a dit d'arrêter la réalisation d'une promesse du président de la République. Ça, c'est un exemple. Vous pouvez prendre des initiatives à vous. Le Premier ministre veut vous dire, écoutez, cette initiative, pour telle raison, elle ne peut pas aboutir, elle ne doit pas aboutir maintenant. Mais c'est comme ça que toutes les équipes fonctionnent. Si chaque fois qu'on n'est pas content, on doit démissionner, vous ne travaillerez dans aucune équipe. C'est ça le travail gouvernemental. Donc, quand l'État faillit sur le plan de la défense, il n'y a aucun forum dans lequel les ministres se prononcent sur les questions de défense. Le président ne peut pas venir jeter sur tout le monde pour dire que tous ceux qui étaient avec moi sont responsables. C'est une précision importante qu'il faut que je donne aux uns aux autres. Moi, je n'ai jamais assisté à une réunion, je n'ai jamais débattu avec le président des questions de défense. Ce que je sais, c'est que lorsque les élections sont terminées, mon parti avait sa stratégie de stabilisation du Nord. Nous avions pensé que le président que nous avons aidé à être élu allait nous demander, en tant que partenaire, quelles sont vos idées? Je vais m'enrichir de vos idées. Ça n'a pas été le cas. Le président ne l'a jamais demandé. On a voulu le rencontrer pour lui exposer. Il ne nous a pas réussi. Donc on ne peut plus dire que nous, on est responsables.
Ce n'est pas la première fois que vous vous présentiez à une élection présidentielle. Et quelles sont vos chances cette fois-ci de l'emporter?
Les chances, nous les verrons le 29 juillet. Mais moi, je crois que les Maliens, pour une fois, vont choisir en fonction des programmes des candidats, de ce qu'ils vont expliquer, de comment ils vont les convaincre. Ils ne vont pas se laisser entraîner par les manipulations à grande échelle où en plein visage, on les jette des images de propagande, où on va les acheter, on va les prendre comme pratiquement, comme j'ai vu des cars il y a quelques jours qui transportaient des gens comme du bétail. Je pense que les gens vont suivre les candidats, ils vont les écouter. C'est à ce titre d'ailleurs que je félicite vraiment votre studio. Je félicite Studio Tamani et Renouveau FM pour le travail qu'ils sont en train de faire. Parce que ça contribue à faire en sorte que les Maliens choisissent en connaissance de cause. Parce que jusqu'ici, on ne choisit pas en connaissance de cause. On jette la poudre aux yeux des gens, on manipule, on distribue des t-shirts, de l'argent et puis on fait voter les gens. Cette fois-ci, j'espère que les Maliens vont choisir en connaissance de cause. Et si c'est le cas, je suis convaincu que je serai parmi eux.
Mais quelles sont les principales propositions de votre projet de société pour le Mali?
Les principales propositions sont les suivantes. Elles s'articulent autour de 5 points. D'abord, je pense qu'il faut restituer à l'État malien sa souveraineté, la plénitude de sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Deux, il faut restaurer les forces armées de sécurité. Troisièmement, il faut repenser la décentralisation. Il faut refonder l'école malienne. Et enfin, il faut relancer le processus de développement économique et social de notre pays. Voilà les 5 axes, mais chacun de ces axes sont naturellement développés de long large. Et comment il faut les réussir dans le programme.
Mais tout cela est ambitieux. Est-ce que aurez-vous le moyen suffisant? Où allez-vous prendre de l'argent pour financer tous ces programmes?
Vous savez, j'ai l'habitude de dire au niveau du MPR que le MPR n'a pas d'argent, mais il a des idées. L'argent finit, les idées ne finissent pas. Deuxièmement, les pays les plus développés dans le monde, ce n'est pas ceux qui ont
les plus de moyens.
C'est ceux qui ont les idées. C'est ceux qui ont l'intelligence, ceux qui ont l'organisation. Je suis persuadé qu'il suffit d'une bonne gestion des ressources que nous avons, d'une bonne organisation de l'État, de la mise en confiance des citoyens pour que nous créions les richesses pour notre développement. Je suis persuadé de cela. Et donc pour moi, la priorité aujourd'hui, le chef de l'État du Mali, sa priorité, ce n'est pas de dire aux Maliens, je vous donne de l'emploi, je vous donne ceci, cela. C'est de leur dire, comment je vais vous sécuriser? Le premier besoin de l'homme, c'est d'abord la sécurité. Et c'est pour cela que j'ai dit que si je suis élu président de la République, les 80% de mon énergie pendant les 6 premiers mois à un an vont être consacrés au rétablissement de l'autorité de l'État, au rétablissement de l'intégrité territoriale du Mali, au rétablissement des forces armées de sécurité. Une fois que je sécurise le pays, les actions de développement qui ne s'arrêtent pas, bien sûr, je ne dis pas qu'il faut arrêter jusqu'à finir de sécuriser, tout va ensemble, mais tout est une question de priorité. Je ne veux pas me mettre à m'occuper de tout en même temps. Il y a des ministres et des premiers ministres qui seront chargés de ça. Mais en tant que chef suprême des armées, qui est responsable de la sécurité des Maliens, parce que je considère que c'est la première mission d'un président de la République, je vais me consacrer à cela. Une fois que le pays est sécurisé, ou dans le processus de sécurisation, un gouvernement démocratiquement élu aura les moyens de créer les conditions de développement. Il y appartient, disait de son intelligence, de son savoir-faire, des potentialités que nous avons en tant que cadre pour organiser l'État et donner le tempo. Parce qu'en vérité, c'est le président qui imprime tout. Toute la dynamique du fonctionnement de l'État, c'est le président qui le donne. Et je m'engage à le donner de toute mon énergie.
Vous allez commencer par sécuriser les Maliens, mais comment ?
Je commence par sécuriser les Maliens de plusieurs façons. D'abord, vous aurez constaté que parmi les candidats à l'élection présidentielle, je suis le seul qui me suis donné 5 ans de réflexion pour réfléchir sur le problème fondamental que les Maliens ont, la rébellion, la récurrence des rébellions au nord du Mali. Tous les présidents viennent, il y a un malade qui s'appelle Mali avec la rébellion, ils commencent à le traiter sans faire le diagnostic. Eh bien, moi, je me suis dit qu'il faut d'abord faire le diagnostic. Si on fait le bon diagnostic, la maladie est à moitié soignée. Ce diagnostic, je l'ai fait dans un livre que je viens de publier, Les rébellions au nord du Mali, des origines à nos jours. Et vous verrez dans ce document, le livre le plus ancien que j'ai consulté a été écrit en 1898. J'ai parcouru 120 ans de l'histoire de notre pays, l'histoire moderne, pour comprendre. Et j'ai compris, aujourd'hui, je comprends exactement ce qui se passe, pourquoi ces rébellions-là. Ça, c'est un. Et donc, une fois que j'ai compris, je m'attaque aux causes. Et je vais vous dire, la première des choses que le président doit faire, c'est de donner l'exemple. Par son sérieux, dès les premiers pas, les premiers actes qu'il va poser. Vous aurez remarqué que récemment, les premiers actes que le président a posés, c'était la polémique autour de la composition du gouvernement. Ensuite, on est versé dans les affaires. Ensuite, c'est les injures, c'est les insultes. Et finalement, l'armée qui devait être reprise en main s'est retrouvée embourbée. Et c'est pour cela que moi, ma priorité, c'est d'abord de donner l'exemple. Deuxièmement, je change de fond en comble la gestion de l'armée, la doctrine de commandement, la politique de promotion, la stratégie d'équipement de l'armée, les promotions dans l'armée. Tout va changer de fond en comble. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que si je donne certains détails, ça veut donner l'impression que je vais faire révolter les militaires. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce qui se fait aujourd'hui dans l'armée, aussi bien au niveau de l'équipement, au niveau de l'organisation de la défense, au niveau de la stratégie même, au niveau de l'idée même qu'on se fait de l'outil de défense.
Qu'est-ce qui se fait dans l'armée ?
Dans l'armée, je vais vous dire quelques orientations, je ne dirai pas le tout. Vous savez que pendant 20 ans, notre armée n'a pas été équipée. Si vous voyez que 500 bandits, des narcotrafiquants, des voyous de tout genre, s'associent à des mercenaires venus de Libye et qui fassent tomber notre pays, ils divisent notre pays, qui avait quelques années plus tôt l'armée la plus puissante de la sous-région, c'est quelque chose qui s'est passé. C'est que pendant 20 ans, l'armée a été déstructurée. Elle n'a pas été équipée. L'indiscipline s'est installée dans l'armée. Et vous savez qu'on dit dans l'armée, moi je le dis à qui veut l'entendre, moi je suis un militaire de réserve, je suis un soldat deuxième classe de l'armée malienne, numéro matricule 24-831. La force principale d'une armée, c'est la discipline. C'est le seul métier. On vous met en mission, vous pouvez mourir, mais vous ne pouvez pas, vous ne posez pas de questions. Vous exécutez la mission, vous devez vous rendre compte. Quand un syndicat se crée dans l'armée, quand la hiérarchie est renversée, lorsque vous avez des promotions de complaisance, l'armée française, c'est à peu près 200 000 hommes. Ils ont 150 généraux. Nous, on n'a même pas 20 000 hommes, on a plus de 100 généraux, près de 800 colonels. Mais ce n'est pas une armée, c'est des promotions de complaisance. Vous avez des responsables qui ont mis leurs enfants dans l'armée. Lorsque vous ne pouvez pas surveiller votre enfant, il vous échappe, vous le mettez dans l'armée. Il n'y a pas de discipline. Le commandement ne se fait pas normalement. Donc les gens n'ont pas confiance en leur chef. L'armée malienne a une série de problèmes. Il a des problèmes de commandement, de justice sociale, d'équipement, d'entraînement et de formation idéologique pour qu'ils comprennent pourquoi ils sont dans l'armée. L'armée n'est pas un service qui est là pour donner de l'emploi. On surprend des gens en train de prendre de l'argent avec des personnes pour mettre leurs enfants dans l'armée. Ces gens doivent être radiés à vie de notre armée. Ils ne vont pas être sanctionnés pour 40 jours. On confronte la rébellion. Les rebelles viennent dire qu'à l'issue des accords, ils doivent intégrer l'armée. Ils viennent nous dire qu'ils sont 3600. Pour une armée de 7500 personnes, on les intègre, plus de 2500. Des analphabètes qu'on nomme colonels, parce qu'on veut faire de la complaisance. Ils quittent l'armée, ils font 2 mois, ils reviennent. Pas de sanctions. Ils prennent des militaires en otage. Ils disent non, pour que je les libère, il faut que vous transformez mon hameau en commune. Décret, transformation en commune. Ils reviennent. Un autre jour, ils partent. Il y a des députés, des élus, des militaires qui quittent l'armée, qui quittent l'Assemblée, qui quittent le Haut Conseil de collectivité. Ils rejoignent la rébellion. Ils tuent les Maliens. Ils brûlent le drapeau du Mali. Ils reviennent. Ils disent que tout le temps qu'ils ont fait dehors, il faut leur faire des rappels, des salaires, des primes, des carburants. On fait voter des dispositions, on paye ça. Mais la rébellion ne va jamais finir. Les militaires qui se partent seront démoralisés. Je vais mettre fin à ce système-là, dès les premiers mois. Deuxièmement, la gestion des ressources du pays. La communauté internationale même va voir que les choses ont changé dans le pays. Parce que quand les gens savent que vous êtes sérieux, ils vous respectent. En ce moment, vous leur dites d'appliquer ce qui a été dit. Aujourd'hui, les accords de Ouagadougou qui ont été signés le 18 juin 2013 stipulent quoi? On organise les élections, on fait des pourparlers inclusifs après les élections, mais les rebelles doivent être désarmés. Le président élu à 77% devait exiger d'abord l'application stricte de cet accord. Désarmer les rebelles. Un, les négociations inclusives les entamer tout de suite. Qu'est-ce qu'on a fait? Les rebelles n'ont pas été désarmés. Le président dit que lui, aucun rebelle ne se mettra à son niveau pour discuter. Lui, il est démocratiquement élu. Le résultat, c'est le désastre de Kidal. Après le désastre de Kidal, on est en Algérie, la tête baissée pour signer l'accord qu'on n'arrive pas à l'appliquer aujourd'hui. Je vais mettre fin à cette démarche-là.
Vous, président de la République, alliez-vous garder cet accord ou vous allez le réviser, l'accord, pour l'appel à la réconciliation nationale ?
Bien sûr. Celui qui viendra vous dire ici qu'il va rejeter l'accord totalement, c'est un démagogue. Moi, je ne suis pas un démagogue. Cet accord a été signé au nom du Mali, ne donne pas satisfaction aux Maliens, mais c'est un document cadre. Il faut que les uns et les autres comprennent que l'accord, c'est une étape. C'est un cadre que nous avons pris qui ne donne satisfaction à personne. Pas plus au Mali qu'aux rebelles. Sauf que le Mali, de mon point de vue, depuis que l'accord a été signé, en dehors des erreurs commises avant la signature de l'accord, le Mali a fait de son mieux. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a vu? Les rebelles n'ont fait aucune concession. Aucune. À part le fait de dire du bout des lèvres qu'ils sont dans l'accord. Mais aujourd'hui, tout le monde sait. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le commandant de l'opération Barkhane qui le dit, ici dans cette même maison de la presse le 17 novembre. Il a fait une conférence de presse. Il dit qu'il y a des partis, des mouvements armés qui sont dans l'accord le jour, un pied dans l'accord, un pied avec les organisations terroristes. Je vais demander de mettre fin à ça aussi. Personne ne peut pas accepter ça. Les gens sont dans des hôtels, ils sont dans des 4x4, ils sont grassement payés, ils voyagent et ils mettent le feu dans notre pays. Les populations Touareg au nom desquelles ils parlent, qui ne les ont pas mandatés, c'est les plus grandes victimes de la rébellion. Je vous dis que les souffrances les plus inouïes, c'est les Touareg et les Arabes qui les encaissent. C'est eux qui sont dans les camps de réfugiés, comme des mandiats. C'est eux qui sont obligés de quitter leur terre. C'est eux qui sont victimes des représailles de l'armée. Ceux qui provoquent ces guerres-là, ils n'en souffrent jamais, eux. Ils sont dans les hôtels, ils prennent le téléphone, le président les reçoit le même jour, ils veulent de l'argent, on leur donne. Mais avec ça, la rébellion ne va pas finir. Il faut mettre fin à ça. Personne ne fera de la rébellion un fonds de commerce désormais.
Les considérez-vous comme des rebelles ou des ex-rebelles?
Pour moi, c'est des responsables des mouvements armés qui ont signé l'accord. Je pense que c'est le nom qu'il faut leur donner. On peut les appeler ex-rebelles ou rebelles. Ou signal... Mais je constate seulement aujourd'hui que la rébellion est devenue un fonds de commerce. Il y a une nomenclatura qui s'est structurée au Mali, qui se reproduit et qui vit du malheur des Touaregs et des Arabes, et des Sonrés et des populations du Nord. Il faut mettre fin à ça. Il faut mettre fin au fait qu'on donne de la prime à la rébellion systématiquement. Chaque fois que les gens font du mal, on donne des valises d'argent, on donne des postes. La paix ne s'achète pas. La paix se conquiert et elle s'impose si c'est nécessaire.
Depuis 1991, il y a eu plusieurs accords signés avec le Mali, avec la rébellion, mais ils ont pratiquement abouti qu'à d'éphémères périodes de paix. Ça veut dire que quelque part, quand même, dans la signature d'accord, il y a des dispositions peut-être qui ne sont pas bien, qui sont signées peut-être sous la pression des groupes armés ou la pression de leurs alliés ou de la communauté internationale.
Je suis entièrement d'accord que la plupart des accords ont été signés quand l'État malien est en position de faiblesse. Aucun de ces accords n'a été signé par un État en position de force. Or, vous savez, je ne connais pas dans l'histoire de l'humanité, je ne connais pas géographiquement sur cette planète-là, une rébellion qui s'est terminée uniquement parce qu'on lui parle. Aussi longtemps que l'État n'impose pas l'équilibre des forces sur le terrain, le changement des rapports des forces en sa faveur, la rébellion ne finira jamais. Il faut que les mouvements rebelles sachent qu'ils ne peuvent rien obtenir par la force, que l'État en impose. En ce moment, il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Il ne faut pas chercher à humilier les gens. Il ne faut pas les considérer comme n'importe qui. En ce moment, on s'assoit, on regarde ce qui peut être considéré par l'État, on le concède. Ce qui ne peut pas être considéré, on dit qu'on ne le fait pas. C'est ce qui n'a pas été fait. L'État est toujours allé en position de faiblesse. Deuxièmement, lorsque les différents dirigeants estiment que ce n'est pas la corruption, c'est par l'achat, distribution de grades, des valises d'argent, des promotions de complaisance, que la rébellion va finir et ne finira jamais. Parce que je dis, ça reproduit, il y a toute une nomenclature qui se reproduit. Si vous remarquez, les présidents changent de 91 à maintenant, on est au notre quatrième président. Mais regardez les principaux acteurs de la rébellion, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes. Donc c'est devenu un fonds de commerce pour eux. Mais il faut mettre fin à ça. Et lorsque le président Keïta est venu au pouvoir, ce sont ces choses-là qu'il devait mettre sur la table. Après avoir, bien sûr, eu la garantie de l'union sacrée des Maliens autour de lui. Parce qu'il faut d'abord que le président, dans son pays, il ait le peuple avec lui. Parce que tout le monde sait que ces mouvements de rébellion sont toujours soutenus de l'extérieur. Ils sont conseillés, ils sont entretenus. Mais tout le monde le sait. La première rébellion, elle a été matée par le président Modibo Keïta, parce que cette rébellion, elle était d'inspiration féodaliste. Je l'ai démontré dans ce livre-là. C'est des structures féodales, le maintien du servage et de l'esclavage dans la région de l'Adrar, que certains voulaient maintenir. Le président Modibo Keïta a dit non. La première rébellion est partie de là. Elle a été matée et il a utilisé la diplomatie, qui, comme le dit le philosophe, n'est que la continuation de la guerre par d'autres moyens. Les chefs rebelles qui sont réfugiés en Algérie et au Maroc ont été attrapés par ces autorités et remis au Mali. L'armée a réglé le reste à l'intérieur du pays. Deuxième rébellion. Ils se sont préparés pendant 10 ans. Vous le verrez dans le livre. C'est Kadhafi qui les organisait, les finançait, les entretenait pour aller diviser le Mali. Quand ils sont venus, ils ont commis des actes terroristes, égorgé des populations. Le président d'alors, le général Moussa Traoré, a donné 3 mois à l'armée pour inverser le rapport des forces sur le terrain. 3 mois, à moins de 2 mois, le rapport des forces a été équilibré sur le terrain et les rebelles ont compris que leur aventure est sans issue. Ils ont été obligés de s'asseoir pour négocier. On a signé les accords de Tamara 7. Quand vous partez les lire, c'est un accord cadre, il y a 12 ou 11 points. Après, le pacte national, l'accord d'Alger, le dernier accord d'Alger, ce qu'on appelle l'entente sur les autorités intérimaires, c'est tous des documents qui ont été signés par un État en position de faiblesse. À partir de ce moment, on y a mis des choses que l'État ne peut pas réaliser. Quand on donne des délais dans 60 jours, il faut faire tel investissement, dans 46 jours, il faut faire... Tout le monde sait que ce n'est pas possible. Et après, les rebelles se saisissent de ça pour continuer leur marché. parce que c'est un véritable marché. Et ça, j'ai dit qu'il faut qu'un président de la République qui vient...
Mais cette rébellion est soutenue par qui?
Mais cette, j'en arrive. Ça, c'était donc en 91. Mais 2012, ce n'est pas moi qui le dis. C'est dans mon livre, c'est les rebelles qui le disent. Ils ont été organisés. On leur a dit de venir couper le Mali. C'est la France officielle, c'est connu. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est eux-mêmes qui le disent, comment on les a organisés. Ensuite, vous rappelez des déclarations des mouvements séparatistes en 2012, quand ils assassinaient nos militaires à Gerhok. Mais il y avait le ministre français des Affaires étrangères qui pratiquement disait qu'ils enregistraient des victoires dont il faut tenir compte. Et puis dans le livre, vous allez trouver des déclarations officielles de certains responsables politiques français qui disent qu'il faut donner l'autonomie aux Touaregs. Ça, ce n'est pas de la diffamation, ce n'est pas de la propagande, c'est des écrits. Mais ce qu'il faut aussi dire, la France ne serait pas intervenue en janvier 2013. On ne serait pas là en train de parler. C'est pour cela que moi, je dis que le discours que je tiens, ce n'est pas un discours anti-français, c'est un discours pro-Mali. Si la France n'était pas intervenue en janvier, on ne serait pas là. La France a perdu 21 de ses enfants ici. C'est pour cela que j'ai dit à nos citoyens de faire attention. Je comprends le sentiment de frustration, même de trahison. Mais aller brûler le drapeau de la France, insulter la France, nous ne devons pas le faire parce que nous ne sommes pas un peuple d'ingrats. Nous sommes un peuple reconnaissant. Mais on ne doit pas oublier qu'il y a certains milieux français qui entretiennent la situation dans notre pays. Et regardez seulement quand l'opération Serval et Barkhane et MINUSMA ont été autorisés. La résolution du Conseil de sécurité qui les autorisait à venir, elle a été faite sur la base du demande du président intérim de la, par intérim de la République du Mali. Il a demandé un appui aérien et un renseignement pour que l'armée malienne libère le pays. Et quand la MINUSMA et Serval venaient, tous les Maliens, toute la communauté internationale pensait qu'ils venaient aider l'État malien à se donner la main pour recouvrer la totalité de l'intégrité du territoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Kona, on a respecté. Gao, on a respecté. Tombouctou, on a respecté. Arrivé à Nefis, on dit, l'armée malienne, vous ne passez pas à Kidal. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé chercher les séparatistes qui ne consistaient ni une force morale, ni une force politique, ni une force militaire, parce qu'ils avaient été chassés de Gao par les Mujao et les populations de Gao à cause de la compromission pour les populations de Gao qu'ils ont eu en faisant assassiner nos soldats à Gelhok, à cause du fait qu'ils ont divisé et les abus qu'ils ont fait. Ils étaient à Ouaga dans les hôtels et à Mauritanie. On est allé les mettre dans des wagons pour les amener à Kidal. On est allé prendre une partie des mouvements terroristes pour les faire changer de nom, pour les mettre ensemble. On les a installés à Kidal. Pendant ce temps, l'armée malienne ne peut pas rentrer. On a fait venir l'aménagement. On a fait venir les Tchadiens. L'armée malienne est restée dehors. On est retourné, vous allez le voir, à un document qui a été écrit le 15 septembre 1907, la convention dite de Bourem. Elle dit quoi? L'adra des Ifogas appartient aux Ifogas et à ce qu'il plaira aux Français d'y installer. C'est ce qu'on a appliqué en 2013. On a bloqué l'armée malienne, on a amené les séparatistes qu'on a installés, on a amené ce qu'il plaira aux Français d'y installer, les Tchadiens, l'aménagement et les Français. L'armée malienne a été interdite d'aller au nord. Ces questions-là, le président devait s'asseoir, discuter, pour dire que si on veut que la guerre finisse, il faut désarmer les rebelles, il faut que la communauté internationale nous aide à recouvrir l'intégrité de nos territoires. Au lieu de cela, et MINUSMA et Serval nous disent chacun, MINUSMA dit qu'elle est venue pour la sécurité des populations. Serval dit qu'elle est venue pour lutter contre le terrorisme. Mais le résultat, c'est quoi? Ils deviennent des forces d'interposition. Chaque fois que les séparatistes sont en difficulté, que ce soit à Menaka, à Kidal, ils interviennent pour séparer les deux parties. Et mais l'aménagement est cantonné dans des camps à Tombouctou, à Gao. Ils disent c'est pour sécuriser les populations, dans un enclos. Mais les populations sont en ville, les touristes viennent tomber sur eux, ils leur envoient des obus, ou bien ils sortent sur des mines. Mais il faut aller faire la guerre contre eux. Serval dit que c'est pour les terroristes. Mais vous savez qu'une partie de ces terroristes sont logés dans les mouvements dits signataires de la guerre. Mais il faut les frapper.
Si tout le monde... Vous évoquez là un problème quand même assez grave. La France qui joue le rôle de sapeur-pompier, de pyromane en même temps, vous, président de la République, allez-vous garder des bons rapports avec la France officielle?
Vous savez, Ce que j'ai dit, ce n'est pas que c'est très grave. C'est connu de tous. La seule différence entre...
Oui, mais une situation qui doit interpeller...
La seule situation entre les autres et moi, c'est que moi, je dis tout haut ce que tout le monde pense, tout bas. Hein. Deuxièmement, je vais vous dire. Vous savez, moi, je ne suis pas partisan de l'idée, les amis, nous sommes des... C'est de la politique policière, des discours endormis. Les États n'ont pas d'amis. Les États ont des intérêts. La France est venue sauver le Mali en 2013. Tout le monde sait, en tout cas ceux qui s'instruisent, qu'au niveau du sommet de l'État français, il y avait un débat très dur entre les politiques et les militaires. Les politiques ont voulu qu'on respecte la résolution des Nations Unies. Les militaires et les services secrets ont dit non. Pendant qu'il y a ce débat-là en France, vous croyez que si notre président élu avec 77% avait mobilisé son peuple derrière lui, avait tenu le discours de la vérité, avait donné l'exemple lui-même dans sa façon de gérer le pays, avait évité les scandales qu'il y avait au niveau de la gestion de l'armée, l'argent pour financer l'armée, pour équiper l'armée, avait évité d'être impliqué dans des scandales, son peuple derrière lui, ferme, sûr, il va vers les Français et il leur explique. Ce que vous voulez n'est pas possible. S'il y a des intérêts géostratégiques, mais on joue carte sur table. S'il y a des minerais au nord, le Mali ne peut pas les exploiter. C'est bien des sociétés étrangères qui viennent les exploiter. Qu'elles ne sont pas françaises, elles seront chinoises, américaines, algériennes. Mais discuter carte sur table. Au lieu d'être dans le discours nationaliste là, destiné à tromper les Maliens, alors qu'on signe des accords de défense en cachette, dans lesquels il y a des choses qu'on ne peut même pas accepter et qu'on ne peut pas assumer. Moi, je n'entrerai pas dans ces gens-là. Je jouerai carte sur table avec les Français. Nous ne sommes pas leurs ennemis, nous sommes leurs amis. Et on
pourtant,
voit là
que
où
les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts.
Non, quand je dis nos amis, nos amis dans le sens où on discute d'une question précise. C'est-à-dire que nous ne sommes pas leurs ennemis, c'est ce que je veux dire. Nous ne sommes pas les ennemis de la France. Et à quoi bon de continuer ce jeu de cache-cache? On dit, on tient des grands discours, on n'est pas d'accord. On a signé des accords militaires avec la France. Personne ne sait ce qu'il y a là-dedans.
Et vous savez bien. Mais justement, parlant de cet accord.
Vous savez bien que ces accords-là.
Êtes-vous favorable à son maintien ou pas?
Vous savez, ces accords-là. Notre gouvernement n'a pas osé en informer le peuple malien. C'est le ministre français de la Défense qui a informé les Maliens à travers RFI.
Le 20 janvier. Est-ce que vous allez le maintenir ou pas?
Non, je vais vous expliquer pourquoi. Pour ma position, je vais vous la faire comprendre. Quand les Maliens ont fait du bruit. On a dit non, non, il faut reporter. On a reporté à quand le 25 mai, le jour de la création de l'OIA, qu'il a fallu avoir du bruit encore pour reporter au 16 juillet 2014. Ces accords-là, on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. Moi, je ne peux pas dire que je les maintiens ou non. Il faut que je sache d'abord ce qu'il y a là-dedans. Personne ne sait ce qu'il y a là-dedans.
D'accord. Monsieur Choguel Kokala Maïga, que proposez-vous concernant les secteurs de l'éducation et de la santé?
L'éducation et la santé sont des secteurs vitaux pour un État. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que l'armée, c'est la colonne vertébrale de la nation. Un chef d'État qui ne remet pas son armée en marche, c'est un charlatan, il trompe son peuple. Une fois que la colonne vertébrale tient debout, tient les chocs, le Tchad, la Mauritanie, l'Algérie sont là pour le prouver. Quand ça tient le choc, vous avez un cerveau qui doit bien fonctionner. Ça, c'est l'école. Et vous avez l'organisme qui doit fonctionner, ça c'est la santé. Et donc ces trois secteurs sont vitaux et sont centraux dans mon programme. Bien sûr, pour que tout cela marche, il faut qu'ils soient nourris. Et c'est pour ça l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'industrie, le commerce, les politiques de désenclavement sont aussi au centre de mes préoccupations. L'école, il faut avoir une nouvelle approche. Tout ce que nous voyons actuellement, je pense honnêtement qu'il faut changer l'approche même de l'école. Regardez aujourd'hui les syndicats des étudiants. Est-ce qu'honnêtement, ceux dont ils s'occupent, c'est leur rôle? Tout le monde sait si ce n'est pas leur rôle. L'instrumentalisation que les politiques font...
Vous parlez de quoi? Ceux dont ils s'occupent qui n'est pas leur rôle?
Ils gèrent de l'argent. Il y a des armes qui circulent à l'école. Ça, ce n'est pas l'école. Les politiques qui s'ingèrent dans leurs affaires. Les étudiants, en notre temps... Vous faites des débats. Ceux qui sont les plus méritants, les plus intelligents, les plus éloquents, ceux qui sont choisis pour être les dirigeants. Aujourd'hui, c'est ceux qui ont le plus d'argent, qui ont des pistolets, qui ont de l'argent. Mais ça, ce n'est pas les étudiants. C'est des politiques qui ont amené la politique à l'école, pour désorganiser l'école. La santé, c'est la même chose. Les politiques de santé communautaire, je vous dis, c'est une très bonne politique. Approcher la santé des populations, il faut revenir aux fondamentaux de cette politique et l'appliquer. Et les grands hôpitaux maintenant de référence, il faut les équiper. Comment vous pouvez imaginer aujourd'hui qu'au Mali, un hôpital comme Gabriel Touré n'a pas de scanner. Les scanners tombent en panne. Les scanners, c'est 500 millions. Même si c'est trop, c'est 1 milliard. Mais 500 millions, c'est souvent ce que les gens dépendent dans une visite du président dans une région pour 2 jours de visite. Ça veut dire qu'il y a l'argent. C'est une question de bonne utilisation des ressources du pays. Voilà ce que c'est. Ce sont ces choses-là que je vais changer. Il faut que l'exemple soit donné d'en haut. La modestie, la bonne gestion des ressources, donner l'exemple, aller vers les paysans, ne pas attendre le jour des élections pour faire des grandes kermesses où des gens vont venir s'asseoir. Le président a donné 15%. Merci, monsieur le président, comme s'il a pris son salaire. Alors que quand vous prenez la situation des paysans, ils se sont appauvris. Moi, j'ai les statistiques aujourd'hui. Combien les paysans gagnaient quand ils vendaient le coton? Avant, les 15%. Parce que c'est Atiti qui a mené à 10%. C'était à 3%. Les paysans vendaient le coton à 251 francs. Il avait une ressource de 4 francs. Donc ça revenait à 255 francs. Aujourd'hui, allez-y voir sa situation. Il est plus pauvre aujourd'hui qu'hier. Deuxièmement, il vendait le coton à 250 francs. Après, il achetait le tourteau, qui coûtait, je crois, 12 000 francs la tonne. Mais aujourd'hui, le tourteau, on prend le coton. On achète le coton à 250 francs. On enlève le coton. On enlève l'huile. On enlève le savon. On enlève tout. Le reste, c'est-à-dire qui était jeté, on vend aussi la tonne à 250 francs, comme on a acheté le coton. Et nous vous trouvez des charlatans qui viennent tromper les Maliens à la télévision, vraiment présents, initiés, avec un demi. Mais les présents sont appauvris. Il y a une nomenclature qui s'est créée au sommet de l'État, qui sont dans des jeux de complicité avec les détenteurs du pouvoir. Il faut qu'on mette fin à ça aussi. Ça, c'est des démonstrations arithmétiques. Et je n'invente rien et je ne calomnie personne. Parce que j'ai juré quelque chose. Je ne ferai jamais de déclaration insultante contre le président de la République. Parce que le président, une fois qu'il est élu, il est le président de tous les Maliens. Deuxièmement, quand on ne respecte pas notre président, c'est notre pays, l'image de notre pays qu'on ternit. Moi, je ne le ferai jamais. Je vais respecter le président jusqu'à la fin de son mandat, mais je serai sans concession dans les critiques, mais des critiques qui ne sont pas des calomnies, mais des choses qui sont vérifiables. Ces chansons-là que j'entends à la télé tous les jours, 15%, merci, monsieur le président, il faut que les gens arrêtent ça. Parce qu'ils sont en train de tromper nos populations, ils sont en train de les escroquer. Et ce sont ces escrocs-là, finalement, qui sont au sommet de l'État, qui entretiennent la confusion et discréditent le président lui-même. Sinon, personne ne doute que le président en venait au pouvoir. Moi, je pense, et c'est pour cela que je l'ai soutenu en 2013, je pense honnêtement qu'en venant, il avait l'intention de bien faire. Mais quand je vois comment les choses sont passées, je me pose des questions. C'est pour cela que j'ai décidé de me présenter contre lui à ces élections-là.
C'est un divorce des convictions ou des raisons?
C'est... Bon, il y a les deux. Conviction, parce que honnêtement, ce que je vois pendant le mandat du président, ce n'est pas ce que j'attendais de lui. Tout ce qui se passe là, les scandales financiers autour de l'armée, des paysans. Mais lorsque l'armée, les fonds de l'armée, la gestion de l'armée, toujours dans les scandales, les paysans toujours dans les scandales, moi je suis obligé de me poser des questions, quelle que soit la considération que j'ai pour le président. Et c'est en me posant ces questions, je me suis dit qu'on n'est pas sur la bonne voie. Il faut que je me présente pour chercher à changer le cours de l'histoire.
Est-ce que vous vous êtes trompé en acceptant de participer à...
Non, ce n'est pas une question de se tromper. Vous savez qu'en politique, vous ne pouvez pas prédire l'avenir. Il y a une campagne électorale. Mon slogan en 2013, c'était « Restituer au Mali son honneur et sa dignité ». Ce slogan, il est d'actualité. J'ai ajouté cette année « Et sa souveraineté ». Mais ce slogan-là, il était très proche de celui de Ibeka en 2013. L'honneur des Maliens et le bonheur des Maliens. Deuxièmement, j'avais sincèrement pensé qu'il était l'homme de la situation, qu'il allait reprendre l'armée en main. Mais lorsque j'ai vu ce qui se passe au ministère de la Défense, lorsque je vois des promotions, le président qui s'installe le pays en guerre, Ses premières actions en faveur de l'armée, c'est des nominations de généraux.
Vous dites que vous aviez sincèrement pensé.
Oui.
Donc mais vous êtes trompé.
Non, c'est pas. Je ne veux pas dire que je me suis trompé. Mmh. C'est lui qui n'a pas été là où je m'attendais à le trouver. Maintenant, est-ce que je me suis trompé ou bien c'est lui qui a changé de route? Moi, je ne sais pas.
D'accord.
En 2013, quels sont les indicateurs qui vous ont poussé, qui vous ont convaincu de croire qu'Ibrahim Boubacar Keïta était la solution?
Je viens de vous expliquer que même de par son slogan, il disait que c'est pour l'honneur des Maliens et leur bonheur. L'honneur des Maliens, pour moi, c'était nous sortir de la situation d'État sous tutelle. Mon slogan, c'était pour l'honneur et la dignité des Maliens. Pour moi, il faut sortir les Maliens de cette situation de tutelle, de l'humiliation dans laquelle la mauvaise politique de défense des présidents précédents nous ont mis. Et c'est pour cela que j'ai sincèrement pensé que c'était l'homme de la situation. Quand je regarde aujourd'hui, on ne parle plus du Nord. Nous avons une situation de guerre civile au sein du Mali. Mais le pouvoir politique ne peut pas être dédouané de ça. Quoi qu'on dise, même s'il y a des complicités, ceux qui ont exporté le terrorisme au centre du Mali. Mais certains étaient à Kona en janvier 2013. Leur chef, il avait désigné l'imam de Kona. Il les a suivis, on leur a fait un corridor pour aller à Kidal. On a fermé, le Mali n'est pas allé, les gens se sont organisés pendant 2 ou 3 ans, après ils sont revenus. Ces questions-là, celui qui a les clés de l'État, qui a accès aux renseignements, qui a accès aux décisions, c'est à lui d'y faire face, c'est pas aux citoyens.
Monsieur
Je
Maïga,
trouve que sur ce point-là, on n'a pas réussi.
Au début de votre intervention, vous disiez, vous pensiez, vous espérez pour une fois qu'en 2018, les Maliens vont choisir un candidat en fonction de son programme.
Oui.
Est-ce que vous dites ça parce que les Maliens ne vous ont pas choisi en 2013?
Non, parce qu'en 2013, peut-être ils ont cru plus au programme du président Keïta.
Et pourtant, vous dites que vous pensez, vous espérez que pour une fois,
oui,
les Maliens vont choisir quelqu'un en fonction de son programme.
Oui, mais ça, c'est mon idée. Mais les Maliens, chacun a son idée. Moi, mon rôle, c'est de les convaincre que mon programme est meilleur. En 2013, je n'ai pas pu. J'espère pouvoir le faire cette année.
Donc, ils ont choisi un autre programme qu'ils ont cru être meilleur que le vôtre.
Encore que...
Pourtant, vous dites pour une fois.
Non, je vous explique. Encore que les élections, vous savez, elles valent ce qu'elles veulent. Hein.
Pourtant, vous
participez. On vient se battre avec ces idées. Mais vous savez qu'au Mali, ce n'est pas toujours les idées qui passent. En 2013, vous avez la junte qui était avec le président. La junte a pensé que c'était l'homme de la situation, certainement.
Si c'est ce que vous pensez, M. Maïga, pourquoi vous participez à ces élections?
De cette année?
Vous dites que les élections valent ce qu'elles valent, même si vous avez de bonnes idées.
Oui, mais
alors pourquoi vous participez à ces élections?
Vous savez, ce n'est pas parce que quelque chose ne vous plaît pas que vous n'êtes pas là-dedans. Moi, j'étais l'un des hommes politiques il y a 3 mois qui avait dit que la priorité des Maliens aujourd'hui, ce n'est pas les élections. Il faut qu'on s'assoie pour nous entendre comment sortir notre pays de cette situation. Mais j'avais bien dit en son temps que si par extraordinaire je ne suis pas entendu et que les élections se tiennent quand même, moi, je ne veux pas rester dehors. Je vais participer au débat. Je vais me faire entendre. Si on m'écoute, ce serait bien. Si on ne m'écoute pas, je continuerai à me battre. Ce n'est pas parce qu'on échoue dans une bataille qu'on baisse les bras. C'est ça ma philosophie. Je vais continuer à me battre, expliquer aux Maliens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Maliens qui comprennent mon discours. Il y a quelques années, on nous confinait à dire « Oui, c'est les restaurateurs, c'est les gens qui veulent amener le parti unique », alors que c'est la propagande. Aujourd'hui, notre discours est un discours que les gens entendent et ils comprennent. Et j'espère que la majorité des Maliens vont voter pour nous cette année.
Il reste 2 minutes. Si vous n'êtes pas élu, si vous ne passez pas au premier tour, qui allez-vous soutenir au second tour?
Pour les 2 minutes, je souhaiterais d'abord dire...
Mais répondez d'abord à cette question.
Qu'est-ce que je vais dire aux Maliens? Entre les 2 tours, j'attends que les autres viennent m'aider à être élu. Moi, je n'ai pas un projet. Je ne suis pas dans les calculs. Je vais aller avec Issou Grec. Je pense que c'est Issou Grec qui viendra avec moi. Il m'appartiendra, si je vais au 2e tour, d'avoir les capacités et les qualités pour négocier et que les gens comprennent pour qui me suivent. Je ne suis pas du tout dans l'esprit d'aller soutenir quelqu'un. Je suis dans l'esprit que les autres me soutiennent parce que je pense que mon programme est meilleur. Maintenant, ce que je vais dire pour terminer, parce que vous me dites que je n'ai que 2 minutes.
Donc, on a une dernière question aussi à vous poser.
Oui.
Répondez d'abord rapidement en 30 secondes.
J'ai répondu à cette question déjà.
D'accord.
Monsieur Joguel, dans le cadre de cette présidentielle-là, on a posé la question pratiquement à presque tous les candidats. Irez-vous à Kidal?
Dans ces présidentielles?
Oui.
Je ne peux pas le dire aujourd'hui. Parce qu'aller à Kidal, Même le président ne va pas à Kida, lui qui est chef suprême des armées. A fortiori, nous, les candidats qui n'avons, comme on dit, que nos idées.
Pourtant, la MINUSMA dit qu'elle va vous accompagner.
Mais il n'y a pas de problème. Si la MINUSMA accompagne, moi, avec plaisir, j'irai à Kidal. Hein. Si la MINUSMA le dit, j'irai avec plaisir, comme tous les candidats. Kidal, ça fait partie du territoire, c'est mon pays. Moi, j'ai des parents, j'ai des amis à Kidal. Donc, avec plaisir, j'irai. Ce que je veux dire pour terminer, je veux dire aux Maliens. En tout cas, mon discours peut heurter des gens. Mais je tiens à tenir le discours de la vérité. Et dire aux Maliens qu'il faut qu'ils aient confiance en eux-mêmes. Notre pays aujourd'hui est tombé très bas. Les Maliens ont perdu confiance en eux-mêmes. Ils ont perdu confiance en l'avenir. Je vais leur dire qu'il ne faut pas qu'ils perdent l'espoir. Nous trouverons des hommes dans ce pays-là. Je souhaite que ce soit notre génération qui vont redonner confiance à notre peuple, qui va marcher la toute faute parmi les nations.
Choguel Maïga, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup.
Voilà, c'est la fin de ce numéro de Grand Dialogue. Notre invité était Choguel Maïga, il est candidat à la présidentielle malienne du 29 juillet prochain. Merci d'avoir regardé ce débat, de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments, nos compagnies. Je vous souhaite une excellente soirée également. À la semaine prochaine.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kanfoba.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry, Haloud Mouni. Chenne Berry, Sigi Kanfoba.